Le 23 décembre, je suis allée à la rencontre de Monsieur Périmoni, le directeur de la structure ADOM 61.
L'ADOM 61 englobe les aides à domicile de l'Orne, AAFP, CSF. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur la signification ?
Oui, donc en fait, aide à domicile de l'Orne, c'est la raison sociale de l'association. C'est parce qu'en fait, nous, on s'appelle les aides à domicile de l'Orne AAFP-CSF parce qu'on est adhérent de la FNAP-CSF, qui est une fédération nationale et donc qui fédère également plusieurs autres structures. Donc on retrouvera également des AAFP-CSF dans le Calvados et dans d'autres départements.
D'accord.
Voilà. Et ADOM 61, c'est plutôt ce qu'on appelle la dénomination commerciale aujourd'hui. Plutôt sous une forme de sigle, en fait, ADOM pour aide à domicile de l'Orne.
Là, aujourd'hui, nous venons de vivre une deuxième période de confinement. Nous entrons dans une troisième vague de Covid et un troisième confinement nous menace. Comment les acteurs de l'association appréhendent-ils cette actualité ?
Ça a été vécu assez difficilement sur le premier confinement, puisqu'on a eu un effet de surprise certain, avec des mesures gouvernementales qui ont été assez fortes et qui nous ont poussé à arrêter nos activités, puisqu'on n'était pas autorisé à poursuivre nos interventions. Après le premier confinement, en fait, on a décidé d'une part, on a été assez acteurs pour pouvoir reprendre le plus vite possible, et on a décidé aussi de préparer le plus possible nos équipes et nos bénéficiaires, tout en gardant l'esprit qu'il allait falloir vivre assez longtemps avec le Covid, et donc qu'il fallait s'adapter sur le long terme. Donc ce qui fait qu'on a préparé nos équipes, on a préparé nos bénéficiaires, on a rédigé des protocoles sanitaires, on a mis en place des mesures, on a acheté des équipements qui nous permettent aujourd'hui en fait de prendre ces nouvelles mesures ou ces nouvelles vagues de Covid finalement avec tout ce qui en découle, avec une préparation qui nous permet de les aborder assez sereinement, je dirais. Bien entendu, il y aura des modifications et des ajustements, mais je pense que les équipes et les bénéficiaires sont assez préparés et assez protégés pour qu'on puisse maintenir nos activités.
D'accord. Est-ce qu'il y a eu des réticences de la part et des bénéficiaires et de vos collaborateurs suite à la décision de continuer les interventions, en fait? Est-ce qu'il y a eu des personnes qui ont été réticentes?
Au niveau des réticences, pas vraiment. Alors plus au niveau des familles, puisque inévitablement les intervenants vont dans plusieurs domiciles. Donc il y a eu cette question de la circulation du virus. On a eu très peu de familles qui ont annulé. Ça doit représenter à peu près deux familles sur l'ensemble du département. Donc c'est très très peu, sachant qu'on suit aujourd'hui à peu près 600 familles par an. Donc ça reste minoritaire. Au niveau des intervenants, je pense que réellement, alors bien entendu, il y avait de la crainte sur le premier confinement, parce que on était sur quelque chose qui était inconnu jusqu'alors, où on avait peu de recul, peu d'informations sur le mode de transmission, sur son arrivée, sur les équipements qui étaient efficaces en termes de protection. Aujourd'hui, on a eu, on a acquis des connaissances, je dirais, on a eu beaucoup de lectures, et il y a eu quand même pas mal de recherches scientifiques et d'écrits qui nous permettent aujourd'hui d'aborder les choses. Et en fait, quand on connaît, on peut préparer les choses, on peut anticiper également et pouvoir préparer nos équipes, ce qui fait qu'en fait, on a eu très peu de réticences, voire aucune réticence à intervenir à domicile.
Vous intervenez beaucoup donc au sein des familles, car vous les accompagnez au cours des grossesses, des naissances. Vous offrez du répit aux parents pour qu'ils puissent ne pas s'oublier. Mm-hmm. Est-ce que c'est toujours un choix pour les familles de vous recevoir, ou est-ce que le choix est-il majoritairement motivé par la décision d'un assistant social ?
Alors, il y a deux types d'interventions pour les SAD familles. Donc, en fait, on a une partie qui est plutôt en lien avec le droit commun. Donc là, c'est ce qu'on appelle le régime général. Donc, c'est la CAF qui va financer une majorité de l'intervention, une grande partie du coût horaire de l'intervention. Donc là, le droit commun, c'est la famille qui va nous solliciter. C'est-à-dire qu'elle a un besoin suite à une hospitalisation, une naissance, une grossesse. En fait, tout ce qui va tourner autour de ce qu'on appelle, nous, le soutien à la parentalité. Et donc là, en fait, c'est la famille qui va pouvoir nous solliciter. Elle peut être orientée par un partenaire, hein, que ce soit un médecin, une assistante sociale à l'hôpital ou une autre personne, l'école par exemple, ou bien d'autres. Donc là, c'est vraiment la famille qui en fait la demande, et le lien, il est uniquement avec la famille. Le contrat, il est passé entre la structure et la famille. Au niveau de... Donc ça, c'est un premier type d'intervention. Et ensuite, on a un deuxième type d'intervention qui est plutôt l'aide sociale à l'enfance. Donc là, en effet, on est orienté par une assistante sociale ou un travailleur social du département. Et donc la famille, la famille dispose toujours d'un choix, c'est-à-dire qu'elle peut décider ou non de mettre en œuvre les interventions. Ça, c'est la loi de 2002. En réalité, elle conserve ce choix. Après, il y a une orientation qui est plus ou moins importante par un partenaire.
Est-ce qu'il y a uniquement les personnes bénéficiaires de la CAF qui peuvent se rapprocher de vous pour demander une intervention, ou toutes les familles peuvent bénéficier d'interventions ?
Toutes les familles en fait qui sont allocataires d'un régime général ou spécial. En fait, on travaille beaucoup, nous, sur le département de l'Orne avec le régime général. La population agricole, me semble à peu près que ça doit être 6% de la population ornaise. Donc en fait, on a très peu d'interventions, mais en effet, la MSA propose également de ce type d'intervention à domicile. En tant que parent, en fait, il faut avoir un enfant de moins de 16 ans pour pouvoir bénéficier d'une intervention à domicile.
Et comment les interventions sont-elles programmées ? Enfin, comment est-ce que ça se déroule ? Qu'est-ce que vous mettez en place dans les familles ?
Donc en fait, les familles nous appellent parce qu'il y a un besoin, ou elles sont orientées par un partenaire parce qu'il y a un besoin qui a été identifié. Donc je disais tout à l'heure le soutien à la parentalité. Ça peut être par exemple avoir besoin de répit, comme vous le disiez également, avoir besoin d'un accompagnement pour reprendre le lien avec le milieu scolaire de l'enfant, par exemple, d'être soutenu et accompagné, avoir besoin d'une écoute. Donc on a une responsable de secteur qui va se déplacer à domicile et qui va faire une visite à domicile. Donc pendant ce temps de rencontre, elle va pouvoir présenter le fonctionnement de la structure, nos missions, l'organisation, et puis écouter les besoins de la famille, et donc mettre en place les interventions à la fois par rapport aux besoins des familles et à la fois par rapport à nos contraintes organisationnelles. Donc suite à ça, on va mettre en place un rythme, on va définir un rythme qui va aller de une fois, deux fois, trois fois, parfois plus par semaine, et sur une durée d'intervention qui va varier, on va dire, entre une heure et 3 heures d'intervention, en règle générale. Et donc tout ça, c'est décidé avec la famille en tenant compte de ses besoins, de la réponse qu'on peut apporter et de notre organisation.
Vous intervenez aussi auprès d'un public divers et varié. Donc il y a les personnes en situation de handicap, les personnes âgées ou encore les foyers en situation d'extrême isolation sociale, pour ne citer que le public le plus en difficulté. Pour commencer, quels sont les besoins les plus récurrents ?
Alors, sur le secteur personnes âgées, je dirais que c'est pas la majorité de nos interventions aujourd'hui. On est vraiment plutôt orienté vers la famille, donc parents avec enfants ou qui vont avoir des enfants. En termes de besoins majoritaires, en fait, on est vraiment sur des besoins qui vont dépendre de la situation de la famille. Je dirais que majoritairement, c'est des besoins de soutien à la parentalité. On disait tout à l'heure la question peut-être parfois du cadre éducatif, la question du lien avec l'extérieur, de trouver des activités, le fait de pouvoir se reposer, de se retrouver en tant que parent, de se retrouver surtout en tant que personne. On est sur ce type de besoin majoritairement lorsqu'on intervient à domicile.
Vous expliquiez tout à l'heure, tout de suite là, que vous pouviez intervenir dans le cadre éducatif, mais qu'est-ce que vous entendez par là ? Et est-ce que les parents ne se sentent pas blessés parce qu'on leur donne des conseils pour devenir parent, pour être parent ?
En fait, c'est justement la question du renforcement des compétences parentales. Je pense que c'est ce qu'on travaille au quotidien avec les familles dans lesquelles on intervient. Le fait d'être en difficulté, c'est pas un stigmate, c'est-à-dire que chacun peut se retrouver en difficulté, c'est pas dépendant de la catégorie socio-professionnelle. On peut tous avoir un moment où on a un petit moment de creux, de mou, et avoir besoin d'être soutenu, d'être écouté et d'être conseillé. Comme vous le disiez tout à l'heure, la question du conseil, elle est centrale, et surtout la question de la relation de confiance. En fait, c'est parce qu'on rentre en relation de confiance qu'on arrive qu'on rentre en relation, et que le lien de confiance se crée avec la famille, qu'on peut échanger, qu'on peut poser les choses, qu'on peut mettre en avant les observations que peuvent faire nos professionnels à domicile et pouvoir les travailler derrière. On est vraiment dans une notion d'adaptation et de conseil, et pas on n'ordonne pas les choses. C'est-à-dire que le but, c'est pas de dire à la famille, voilà, il faut faire comme ci ou comme ça. C'est vraiment de travailler avec elles, d'abord d'étayer leurs compétences parentales, parce que chacun a des compétences parentales, il y a peut-être parfois besoin de les mettre en avant et de les travailler avec eux, et de leur montrer qu'ils ont les capacités à être parents finalement, et à poser un cadre auprès de leur enfant. Et ça, c'est vraiment le cœur du métier des TISF et des AVS chez nous.
Lorsque vous entrez en contact avec les familles, vous entrez aussi dans leurs intimités. Il y a aussi des alchimies qui se créent ou non lors des rencontres. Est-ce que certaines familles refusent l'intervention de certains collaborateurs ? car ils ressentent du jugement. Et quelle écoute apportez-vous aux familles des bénéficiaires ?
La question du jugement, elle se pose, mais c'est surtout la question du rapport à l'autre et de comment on y apparaît ou comment on perçoit qu'on y apparaît. Encore une fois, la question de la relation de confiance, elle est essentielle dans nos interventions. Et c'est justement cette relation de confiance-là qui va atténuer, je dirais, la peur du jugement ou la réticence à faire venir quelqu'un chez soi parce que c'est quelqu'un qui va rentrer dans son intimité. On s'ouvre à lui, on va pouvoir discuter. Et voilà, nos professionnels sont formés justement à cette question du non-jugement et au fait de rester objectif dans leur intervention, c'est-à-dire de démontrer par des faits ou des observations ce qu'elles peuvent voir et toujours en lien avec la famille. Ce sont ces éléments-là qui nous permettent justement d'être en dehors de tout jugement par rapport aux familles. Après, ça se travaille bien entendu, ça c'est ce que nous on met en avant. Après, bien entendu, la famille va devoir se faire sa propre opinion dans la relation avec le professionnel. Alors, il se peut, comme vous le disiez tout à l'heure, dans les relations humaines, c'est parfois difficile avec une personne parce qu'on a moins d'affinité, je dirais. Alors même si on est dans un cadre professionnel quand on intervient, bien entendu il y a un enjeu de ce côté-là. Et l'enjeu, en fait, nous on le travaille en mettant, je dirais presque systématiquement en place un binôme d'intervenantes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une seule intervenante qui va travailler à domicile. En règle générale, on en a deux. Alors je féminise mes propos parce qu'on a beaucoup de professionnels féminins dans nos équipes. On a un homme actuellement, on a beaucoup de professionnels féminins. On met en place ce binôme-là, ce qui nous permet, quand il y a une difficulté avec la famille, donc c'est repris avec la responsable de secteur, on en discute avec la famille. Si on voit qu'on ne peut pas résoudre cette difficulté de lien, d'affinité, on va plutôt extraire notre professionnel et plutôt positionner une autre professionnelle en intervention.
Et est-ce que vous réussissez à pallier à toutes les requêtes ? Et sinon, que vous manque-t-il pour répondre à toutes ces demandes ?
Aujourd'hui, on a une évaluation des besoins qui est assez large, c'est-à-dire qu'on a les outils pour répondre aux besoins. En effet, on a beaucoup de demandes. Bon, il y a quand même la question de la méconnaissance du droit commun, c'est-à-dire tout à l'heure on parlait notamment du régime général et de la CAF. Peu de personnes savent qu'elles peuvent bénéficier d'une intervention à domicile. C'est quelque chose qui est très peu connu. On a peu d'informations qui circulent, ou il faut aller chercher cette information-là. Sur la question des requêtes que l'on nous fait, aujourd'hui, oui, on est en capacité de répondre à celle-ci. Demain, je ne sais pas. Pourquoi ? Parce qu'en fait, notre besoin, en tout cas pour la structure, on a un véritable... Au-delà du besoin, c'est un enjeu, je dirais, c'est l'enjeu du recrutement dans l'aide à domicile. Alors, à la fois dans le secteur PAPH, donc personnes âgées, personnes en situation de handicap, même si c'est moins notre secteur d'intervention, il y a cet enjeu très présent, et à la fois aussi en service famille, parce que le métier, notamment TISF, donc de technicien d'intervention sociale et familiale, est très peu connu. Et donc, en fait, il y a peu d'orientation vers cette voie, vers cette activité, vers ce métier, ce qui fait que l'enjeu pour demain, pour les services à domicile, c'est cet enjeu de formation, de recrutement et à la fois de valorisation des métiers.
Est-ce que vous savez où est-ce qu'il y a des centres de formation pour les TISF ?
Oui.
Est-ce que c'est uniquement en camp ?
Non, il y en a deux sur le territoire. Il y en a un à Alençon, donc c'est la Croix-Rouge.
D'accord.
Et il y en a un autre à Hérouville, donc Caen, Hérouville, qui est l'IRTS.
D'accord, donc si les auditeurs d'Alençon veulent devenir TISF.
Voilà, soit auprès de la Croix-Rouge ou nous appeler directement pour qu'on les oriente, il n'y a pas de souci.
Dans cette période qui se veut de plus en plus compliquée, tant au niveau de la santé qu'au niveau économique et social, le gouvernement vous permet-il de mener plus d'actions ?
C'est une question assez complexe, je dirais. Je pense quand même on peut le dire, hein, que le gouvernement a quelque peu oublié le domicile pendant cette crise sanitaire. Alors il l'a oublié dans un premier temps, puis est revenu en arrière en nous incluant un peu plus. Bon, ça a été quand même une période assez difficile, je dirais. Aujourd'hui, donc on y travaille, là on a la période de vaccination qui va arriver où c'était difficile aussi d'inclure le domicile comme un acteur réel de prévention et un acteur majeur dans cette crise sanitaire. Ça évolue, je dirais. Après, il faut savoir aussi que les services d'aide à domicile, donc le gouvernement va prendre des décisions, les services d'aide à domicile notamment, dépendent des compétences des départements. Et donc en fait, ce sont les départements qui vont prendre des décisions locales et qui vont octroyer des financements. Nous, sur le département de l'Orne, on a été assez soutenus pendant cette crise. On a pu bénéficier d'un maintien des dotations, on a pu travailler avec eux. Donc ça n'a pas forcément été le cas de tous les départements français. En tout cas, pour notre département et l'Orne, on a beaucoup travaillé avec eux, donc ce qui a été plutôt positif pour nous, ce qui nous a permis de maintenir nos activités et de reprendre là depuis le mois de mai de manière un peu plus intensive finalement, et puis de poursuivre sur cette deuxième période de confinement.
Le département vous a inclus dans les discussions justement pour justement pouvoir vous soutenir politiquement ou...
On a surtout, alors je dirais que pour le département, on est surtout aujourd'hui inclus dans les discussions techniques. C'est-à-dire qu'on est, un service à domicile, on va plutôt intervenir directement auprès des familles, donc là on discute plutôt techniquement, je dirais. Politiquement, c'est moins de mon ressort en tant que directeur, c'est plutôt au niveau de la présidence de la structure où il y a les orientations politiques qui sont prises. Je dirais encore une fois que même politiquement, alors même si aujourd'hui on est dans la gestion de cette crise, donc il y a des décisions politiques qui sont prises, ces décisions-là, elles sont travaillées avec nos fédérations, je dirais, parce que l'impact premier va être national, puis après ça redescend au niveau des départements et au niveau de la région, au niveau local, au niveau du département, pardon, on va plutôt transformer cette action politique en action technique derrière pour pouvoir travailler finalement sur le terrain. Après, c'est vrai que ces décisions politiques-là, elles appartiennent plus, encore une fois, à une compétence soit de notre fédération, soit de la présidence de l'association, plutôt que moi directement.
Et est-ce que vous avez eu des compensations financières pour vous aider justement à amener des actions à pallier aux difficultés de cette crise en fait?
Vous parliez tout à l'heure d'actions, donc en fait on avait mis en place notamment pendant le premier confinement des interventions téléphoniques, chose qu'on ne faisait pas jusqu'alors, pour maintenir le lien avec les familles qui pouvaient, disait tout à l'heure, en situation d'isolement social, alors parfois qui vivent dans des logements assez exigus, avec plusieurs enfants finalement, dans des appartements notamment, où il n'y a pas d'espace vert, où ça a été assez difficile à vivre, avec l'école qui s'est arrêtée également, ce qui fait qu'en fait les enfants sont présents à domicile, et il faut aussi vivre les choses et puis se mettre à la place des personnes pour comprendre ce qu'elles peuvent vivre au quotidien, quand il y a une difficulté par exemple à gérer les enfants ou la question du coup des actions qui ont pu être mises en œuvre, donc ça la question du lien avec les familles, la question de la compensation financière, oui, alors elle a été validée donc par le gouvernement, donc une décision politique à la fois. Après bien entendu la décision politique n'avait pas forcément prévu, je dirais, au départ la question financière, puisque maintenir des dotations ou des structures, ça veut dire également qu'il faut trouver de l'argent et qu'il faut payer ces structures là et donc leur maintenir leur dotation, donc ça a été fait, donc nous on a réussi à bénéficier avec le département de l'Orne du maintien des dotations, notamment pendant la période du premier confinement. Nos activités ont été totalement stoppées sans forcément que ça vienne d'une décision de la structure.
Tout à l'heure, vous reveniez un peu sur le premier confinement, c'est vrai que les écoles avaient été fermées. Est-ce que du coup, vos agences sont intervenues plus régulièrement ou alors pour d'autres tâches comme pour le soutien scolaire, parce que le confinement à la campagne et le confinement en appartement, ce n'est pas le même. Est-ce que vos agences sont intervenues auprès des familles pour aider les parents justement qui sont pas très scolaires et qui ont du mal avec tous ces apprentissages?
Tout à fait. En fait, ça a été, on parlait tout à l'heure de l'évaluation des besoins, en tout cas des besoins qu'on rencontre le plus fréquemment. C'est pour ça que je vous disais, je peux pas vous dire quels besoins on va rencontrer, parce que ça dépend de la situation de la famille et également du contexte et de l'environnement dans lequel on intervient. Post-première vague, post-premier confinement, qui a été très, très brutal et total, je dirais, avec un arrêt de quasiment toutes les activités, donc notamment du quotidien et donc de l'école, en effet, les besoins des familles n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on était vraiment dans un besoin de soutien scolaire et à la fois, comme vous disiez, de répit tout à l'heure en début, d'entretien. Le fait que les parents aient... c'est une habitude à prendre, c'est-à-dire qu'on a des enfants, on vit avec eux, mais là les parents étaient 24 heures sur 24 avec leurs enfants. Il n'y avait plus l'école pour faire le lien, pour que les parents puissent accorder aussi du temps, pour faire d'autres activités finalement, pour leur logement. Donc en effet, on a eu post-premier confinement des interventions qui ont été orientées notamment sur le soutien scolaire des enfants pour qui certains parents étaient en difficulté pour assurer cette fonction-là.
Aujourd'hui, quels sont les besoins de l'association? Quels sont les besoins prioritaires de l'association?
Aujourd'hui, on a un, on a cet enjeu dont je parlais tout à l'heure qui est le recrutement. C'est un enjeu fondamental. En fait, je pense que c'est le recrutement. Donc, je parlais de la méconnaissance du secteur des domiciles en service famille notamment. Donc ça, ce sont les besoins de la structure aujourd'hui. En fait, on a des postes à pourvoir, on a très peu de candidats, il y a peu de mobilité finalement d'un département à l'autre. En règle générale, quand on recrute, ce sont des personnes qui sont issues du département de l'Orne, sachant qu'il y a très peu de personnes qui s'orientent vers l'aide à domicile. Parce que l'aide à domicile est peu connue et stigmatisée, finalement, on a des images qui sont fausses, avec on pense qu'on n'est pas payé quand on est aide à domicile, ou que les salaires sont en deçà du SMIC, etc., ce qui est complètement faux. Ce sont des vrais métiers, avec des diplômes, pas de diplômes, ça va dépendre des missions qu'on va pouvoir donner, en tout cas des orientations, mais en tout cas avec de véritables compétences. Je pense que le besoin de l'association aujourd'hui, c'est vraiment de faire reconnaître ces métiers du domicile, notamment en service famille, pour pouvoir attirer plus de personnes dans ces métiers, dans ce secteur d'intervention qui est essentiel pour le coup, pour la vie de la société également.
Et est-ce que cette crise sanitaire a, comme pour certains soignants, modifié la vocation ?
Je pense pas, parce qu'on n'a pas eu... En fait, on n'a pas eu une suractivité liée au Covid. C'est-à-dire que les professionnels de santé, notamment, ont eu une suractivité, ont eu des éléments auxquels ils étaient plus ou moins préparés, je dirais. Alors même s'il y a des plans blancs, etc., des projets qui sont faits dans les centres hospitaliers, notamment, je pense que c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, cette crise-là, quelque chose qu'on n'avait pas vécu depuis quelques années maintenant, plusieurs dizaines d'années même. Pour nous, en fait, on n'a pas eu une suractivité liée au Covid, ce qui fait qu'en fait, je suis pas certain aujourd'hui qu'on ait des vocations qui ont disparu parce que justement la question de cette crise là. Et c'est cette question de la préparation de nos équipes aussi qui y fait. C'est-à-dire qu'il faut être très clair en fait. Je pense qu'il faut dire les choses clairement. C'est-à-dire que quand on a une difficulté et il faut aussi avouer qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que je peux pas répondre à une question, je peux pas répondre à toutes les questions si j'ai pas les informations. Il faut parfois attendre, il faut parfois apprendre, relire et pouvoir s'adapter finalement, et donc on trouve des solutions, on trouve des stratégies et on avance. Donc de fait, je suis pas certain, en étant assez clair avec les personnes, avec nos intervenants, que ça ait eu un impact énorme sur la question de la vocation. Et puis d'ailleurs, je pense qu'il y a même de plus en plus de besoins finalement, en tout cas qui sont repérés, et cette crise a aussi mis en avant quand même des inégalités de santé, c'est-à-dire que là où les milieux qui ont été les plus touchés par le Covid, c'était les milieux défavorisés, les statistiques l'ont montré. Donc, ce qui fait qu'en fait, le métier de travailleur social à domicile, le métier d'AVS, le métier de TISF, en tout cas le travail social à domicile, il est réellement important. Et on ne peut pas se cantonner à une définition de la santé qui est purement médicale. Alors, bien entendu, les problématiques de santé sont probablement avant tout médicales, mais il y a aussi un volet psychosocial qui est important. Et on voit bien que notre accompagnement a un rôle à jouer là-dedans. En
fait. Alors, j'invite moi tous les Alençonnais et Alençonnaises qui nous écoutent à aller s'inscrire à la Croix-Rouge s'ils veulent devenir TISF.
Tout à fait.
Et puis, se rapprocher de vos services. Est-ce que j'ai oublié quelque chose ?
Non, c'était assez clair. Je pense que c'est intéressant, assez intéressant pour faire connaître. Et encore une fois, on a des structures qui sont peu connues et qui sont... tout à l'heure, on parlait de la réticence, du stigmate, du jugement. Il ne faut pas véhiculer des images fausses du domicile. En fait, il est plus intéressant d'en parler avec des personnes qui sont issues du secteur, qui vont pouvoir expliquer. Alors bien entendu, on a des contraintes, comme dans tout secteur, tout n'est pas toujours rose, bien entendu. Après, on essaye quand même d'y donner une bonne image, et réellement, c'est un métier où il y a à la fois de l'avenir, il y a des revalorisations qui sont en cours, notamment salariales, et on a besoin de personnes qui sont motivées par ce métier-là pour intervenir auprès de nos publics.
Merci, Monsieur Périmoni, d'avoir répondu à toutes mes questions.
Eh bien, merci à vous.
C'était l'interview de Monsieur Périmoni, le directeur de la DOM 61, une interview réalisée le 23 décembre 2020.